VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba, malade et hospitalisé depuis plus d'un mois et demi, se porte plutôt bien, a déclaré son premier ministre après l'avoir rencontré mardi à Rabat, où M. Bongo est en convalescence. Le processus de rééducation du chef de l'État évolue très rapidement et positivement, a affirmé mardi soir à Libreville le chef du gouvernement Emmanuel Isosé Ngondé à son retour de Rabat. Il n'a pas précisé quand Ali Bongo Ondimba rentrerait dans son pays à la suite d'un malaise. Vous vous en souvenez, le président gabonais, âgé de 59 ans, a été admis le 24 octobre dans un hôpital de Riyad où il est resté jusqu'au 29 novembre, date de son transfert dans un établissement hospitalier militaire de Rabat au Maroc pour y poursuivre sa convalescence et sa rééducation. À Madagascar, à deux semaines du second tour de la présidentielle prévue le 19 décembre, la campagne qui s'est ouverte mardi promet d'être féroce tant le passif entre les deux finalistes est lourd. Morgan Guiriek.
Marc Ravalomanan, arrivé deuxième au premier tour, affiche une confiance sans retenue. Il n'y a que 3 à 5% de différence entre moi et le candidat arrivé à la première place du premier tour, rappelle l'ex-président. Son adversaire, Andra Joel, a obtenu 39,23% des voix contre 35,35% pour Marc Ravalomanan. Pour refaire son retard, le chef du parti Team compte mobiliser les abstentionnistes, 46% au premier tour, et surtout s'attirer le soutien de quelques-uns des 34 candidats écartés du second tour. Élu en 2002, Marc Ravalomanan a été contraint de quitter la présidence 7 ans plus tard, après une série de violentes manifestations soutenues par Andra Joel, alors maire de la capitale. Monsieur Rajoel a ensuite été installé à la tête d'une présidence non élue par l'armée. Les deux hommes ont été interdits de candidature en 2013 dans le cadre d'un accord de sortie de crise.
L'ex-président burundais Pierre Buyoya, contre lequel la justice burundaise a lancé un mandat d'arrêt international en l'accusant d'être impliqué dans l'assassinat en 1993 de Melchior Ndadaye, premier président Hutu démocratiquement élu du pays, a affirmé mardi à Bamako qu'il ne craignait pas d'être estradé. Le Burundi a lancé vendredi un mandat d'arrêt international contre M. Buyoya, ainsi que 11 gradés de haut rang des forces de sécurité et 5 de ses anciens proches collaborateurs civils pour leur rôle présumé dans l'assassinat de M. Ndadaye. La République démocratique du Congo traverse, vous le savez, la pire épidémie d'Ebola jamais enregistrée dans le pays, avec plus de 420 cas recensés dans l'est du pays. Cette épidémie, la 10e en RDC, est particulière car plus de 60% des patients sont des femmes. Reportage, Anita Powell, récit, à nouveau, Morgan Guiriek.
Bénédicte n'a qu'un mois, mais sa courte existence a déjà été bien difficile. Elle a passé les 3 dernières semaines de sa vie en isolement, coupée de tout contact humain. Sa mère, atteinte du virus Ebola, est morte en la mettant au monde. Elle est sous les soins constants d'une infirmière couverte de la tête aux pieds avec un équipement de protection. L'équipe médicale ne sait pas où se trouve son père et son avenir est incertain. Depuis le début du mois d'août, le virus Ebola a été diagnostiqué chez plus de 400 personnes, dont plus de la moitié sont mortes. C'est la deuxième pire épidémie d'Ebola après celle qui a tué plus de 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016. La maladie est d'autant plus compliquée à gérer que la zone où elle se propage est aussi le théâtre de plusieurs conflits armés. La région est un cocktail explosif sur lequel est venu se coller le virus Ebola. Pour le docteur Guido Cornale, coordonnateur de l'UNICEF dans la région, l'ampleur de l'épidémie est une évidence.
C'est devenu la pire épidémie au Congo, ce n'est pas un mystère.
Ce qui est mystérieux, c'est pourquoi plus de 60% des cas sont des femmes. Le docteur Joloko Tambwe-Bat, coordinateur régional de la santé auprès du gouvernement.
Toutes les analyses faites démontrent que cette épidémie est très féminisée. Les chiffres sont quand même alarmants. Il est vrai que les femmes sont plus nombreuses que les hommes ici.
Le docteur Bat refuse de dire ou prédire la fin de l'épidémie. Mais des responsables d'organismes internationaux de santé estiment que cela pourrait durer encore 6 mois. En attendant, d'après le docteur Cornale, les épidémiologistes essaient de comprendre pourquoi le virus Ebola affecte autant de femmes et d'enfants.
Pour l'heure, on ne peut qu'essayer de deviner. L'une des hypothèses est que les femmes s'occupent des personnes malades à la maison. Donc si un membre de la famille tombe malade, qui s'en occupe? Une femme, normalement.
Une femme, une mère, une épouse ou une infirmière, d'autant que beaucoup de personnes touchées sont des agents de santé. L'infirmière Guylaine Moulindois-Massica a passé 16 jours auprès d'une patiente qui lui a transmis le virus. C'était le combat de sa vie, un combat pour survivre.
Ce sont des douleurs énormes, en tout cas des douleurs vives, des maux de tête, des diarrhées, des vomissements, des affaiblissements là, donc on est très malaisé là-bas.
Pour les malades, le chemin de la guérison est long et solitaire. Massica et ses collègues ont dû s'absenter du travail, être en réclusion pendant au moins 3 semaines pour s'assurer que le risque d'infection a disparu. Dans le principal hôpital de Béni, les familles qui se sont rétablies vivent ensemble sous une grande tente blanche séparée de contact humain grâce à un cordon en plastique orange vif. Ils disent bonjour à leurs gardiens et qui doivent enfiler des vêtements de protection s'ils veulent s'approcher d'eux.
Merci Morgan. Les États-Unis ont rétabli dimanche une présence diplomatique permanente en Somalie, près de 18 ans après la fermeture de leur ambassade à Mogadiscio en janvier 1991. La mission diplomatique américaine pour la Somalie était jusqu'ici rattachée à l'ambassade des États-Unis à Nairobi, au Kenya voisin, mais un ambassadeur américain en Somalie, Donald Yamamoto, diplomate de carrière et bon connaisseur de la région, vient de prendre ses fonctions.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Il est 6h06 à Washington. Donald Trump et tous les ex-présidents américains encore en vie assisteront aujourd'hui aux funérailles nationales de George H.W. Bush, salué depuis son décès à 94 ans comme une figure ayant su dépasser les lignes partisanes dans une Amérique qui se sent aujourd'hui divisée. Le prince Charles, la chancelière allemande Angela Merkel, le roi de Jordanie Abdallah II et la reine Rania, le président polonais, accompagné de Lech Walesa, ainsi que plusieurs autres dignitaires étrangers sont également attendus dans la cathédrale de Washington. La cérémonie doit débuter à 16h GMT en présence de Donald et Melania Trump et de la famille Bush, dont son fils George W. Bush, 43e président des États-Unis. Moscou a dénoncé aujourd'hui les accusations de Washington qui affirment que la Russie viole un traité de 1987 sur les armes nucléaires de portée intermédiaire et menace à retour de ne plus le respecter. Des accusations sans fondement sont répétées, a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Sakharova, alors que Washington a donné mardi 60 jours à la Russie pour se conformer à ce traité, faute de quoi les États-Unis se retireront de l'accord. En France, le gouvernement joue la carte de l'apaisement face à la colère des Gilets jaunes. Le premier ministre Édouard Philippe a annoncé 3 mesures fiscales, dont notamment la suspension des nouvelles taxes sur l'essence. Raïssa Girondin.
Aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation, a déclaré dans son allocution le premier ministre français. Il a annoncé 3 mesures pour tenter d'apaiser la crise des Gilets jaunes. Il s'agit de la suspension pendant 6 mois de 3 mesures fiscales qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier, la hausse de la taxe sur l'essence, le fioul et le diesel, la convergence de la fiscalité du diesel avec celle de l'essence et l'alignement de la fiscalité du gazole non routier. Enfin, il a ajouté que ni les tarifs de l'électricité ni ceux du gaz n'augmenteront comme prévu pour l'hiver. La concertation sur la transition face à la crise des Gilets jaunes se tiendra du 15 décembre au 1er mars. Cependant, les annonces du gouvernement pourraient ne pas suffire à calmer la colère des Gilets jaunes qui annoncent une nouvelle manifestation samedi alors que des dizaines de lycées sont à leur tour gagnés par une fronde ces derniers jours. 412 personnes ont été interpellées, 4 personnes sont mortes et des centaines ont été blessées depuis le début des manifestations le 17 novembre.
La première ministre britannique Theresa May retourne aujourd'hui devant le Parlement pour défendre son accord de Brexit, ébranlé par plusieurs défaites essuyées la veille qui ont montré la faiblesse de sa majorité et pourraient contrecarrer le processus de divorce. Mardi, les députés ont estimé par 311 voix contre 293 que le gouvernement avait commis un outrage au Parlement en publiant un condensé de 43 pages de cet avis, quand l'original en compte plusieurs centaines. Et puis, un procureur turc a réclamé des mandats d'arrêt contre 2 membres de la garde cadre approché du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, dans le cadre de l'enquête turque sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Selon la requête du parquet, le bureau du procureur général d'Istanbul a demandé mardi l'émission de mandat d'arrêt contre Ahmed Al-Asri Saoud Al-Qahtani, les soupçonnant de faire partie des planificateurs du meurtre, selon la requête écrite envoyée par le parquet à un tribunal. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Henri Francis sera avec vous. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.